à toutes et à tous, bienvenue dans Au fil des bobines, l'émission de cinéphile sur Tudosef 91.1 FM. Aujourd'hui, émission spéciale parce que nous allons consacrer à une interview de la réalisatrice Shua Yellow qui a réalisé le film Un Paese de Resistenza. Cinéphile a pu l'enregistrer en avant-première le 29 novembre à 20h30 au cinéma Les Lobbies où la réalisatrice Shua Yellow était là pour nous parler du film Un Paese de Resistenza.
Che cosa è successo? Ma che cosa ho fatto? Perché tutto questo? E tante cose alle quali io non avevo dato mai una giusta, diciamo, considerazione, mi apparivano sotto una luce nuova.
È una notizia incredibile. Domenico Lucano, sindaco di Riace, è stato messo agli arresti domiciliari, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
Riace! Lucano! Libero!
Riace rappresenta un'anomalia che si vuole ricondurre dentro i gangli della normalità. Quando Lucano dice, oh, io non ho fatto niente straordinario, ho fatto incontrare persone senza casa con case senza persone. E qual è il problema?
È andato buio, è luce di Riace che manca, io dico così, era luce di Riace, mancava. Allora siamo andati come un deserto.
Si agitavano personaggi che volevano costruire, hanno costruito paura, risentimento, ostilità.
Cittadini di Riace e della Locride, accogliamo con un grande applauso Matteo Salvini!
Accogliere, proteggere, promuovere, integrare, i quattro verbi il Papa sempre li dice. Questa è l'esperienza di Riace. Il Papa ha scritto nel 19 questa enciclica, ma Mimmo l'ha scritta su queste case.
Si può vivere senza, senza avere un obiettivo da raggiungere, una utopia da raggiungere, un sogno, non lo so.
Voilà, Un Paese de Resistenza, de quoi ça parle? Alors, ça parle en fait, c'est un documentaire qui nous montre la ville de Riace. La ville de Riace, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une ville qui, pendant plus de 20 ans, a accueilli de nombreux réfugiés, de nombreuses personnes immigrées. Et du coup, il fait qu'un tiers de la population de ce village est une population immigrée. Les deux réalisatrices, donc Shua Yellow et Catherine Catella, ont réalisé d'abord un premier film sur la ville de Riace qui était Un Paese di Calabria. Alors, qui est un film qui précédait, qui montrait en fait ce village. Et plus tard, elles réaliseront le film Un Paese di Resistenza qui montre qu'en fait les choses ont changé, que la politique s'y est mêlée. Et voilà, j'en dis pas plus, que je vous laisse un peu Shua Yellow vous parler du film. Tout d'abord, je la laisse tout simplement se présenter, de nous dire en fait ce qu'elle a pu faire avant, comment elle a été menée à réaliser ces deux documentaires, donc le premier et le second. Voilà, on l'écoute tout de suite.
Bah donc, je m'appelle Shua Yellow, je suis réalisatrice de documentaires. Je viens de la belle ville de Marseille et je travaille avec Catherine Catella depuis quelques années. Nous venons de terminer notre troisième film, celui qui s'appelle Un Paese di Resistenza. Et nous sommes en train d'en préparer un quatrième, donc c'est une collaboration qui est assez intense. Mais avant ça, nous avions travaillé, parce que Catherine est monteuse de métier, chef monteuse, et donc elle a travaillé au montage de plusieurs documentaires que j'avais réalisés pour la télévision. Parce qu'en fait, depuis maintenant une trentaine d'années, je réalise des documentaires, des séries pour la télévision. Voilà, notamment pour la cinquième, j'ai fait beaucoup de films pour la cinquième, pour... Il y a eu pour Arte, pour France O, etc. Avec un thème privilégié jusqu'à ce que je parte en Calabre, qui était les Outre-mer. J'ai beaucoup travaillé sur les Outre-mer pour des raisons personnelles, parce que j'avais un lien avec la Guadeloupe. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur cette forme-là de colonisation que je trouve qu'on ne connaissait pas tellement. Et donc en Guadeloupe, sur l'histoire de l'esclavage, sur les traces dans la société, sur la façon dont la société s'était répartie après l'esclavage, en Nouvelle-Calédonie, où on voit que c'est toujours pas simple. Donc là, j'avais fait un film sur l'histoire des Kanaks et sur le destin des Kanaks depuis qu'on est arrivé sur leur sol. Je fais également en Guyane, sur le melting pot des populations en Guyane, avec des populations qui ont été soit déportées comme les bagnards, soit comme les esclaves, soit comme plus tard les Hmongs, par exemple, qui venaient faire les travaux d'agriculture. Donc voilà, je me suis toujours intéressée à ça, en fait, au déplacement des gens. Je me rends compte, en le racontant, que je me suis toujours intéressée au déplacement des gens. Et Catherine et moi sommes originaires d'Italie, hein, comme la moitié des Français, je pense. Ben, en tout cas, une bonne partie. Elle, sa famille est d'origine sicilienne, la mienne calabraise, d'origine calabraise. Et donc, on était assez intéressés par ce sud de l'Italie, et notamment la Calabre, qui était un lieu assez stigmatisé, assez vu comme vraiment le fin fond du sud, le lieu mafieux par excellence, ce qu'il est, hein, mais pas seulement. Et donc, une vision comme ça assez sombre d'une région qui n'est pas aimée même dans son propre pays. Et on a appris en écoutant une émission de Daniel Mermet, une émission qui s'appelait Là-bas si j'y suis, il y a quelques années de ça sur France Inter, on a appris l'existence de Riace, qui était un petit village qui se situe en fait à une trentaine de kilomètres de mon village d'origine, mais dont j'avais jamais entendu parler. Et on a appris l'existence de ce village qui, pour se redonner vie, pour lutter contre la désertification de ces lieux, de ces habitations, avait accueilli des gens, dans un premier temps, une barque de Kurdes qui avait débarqué là en 98, et par la suite qui est vraiment devenu un village d'accueil. Donc ça nous a beaucoup intéressés et on est allé voir ça. Et quand on a rencontré Riace et les habitants de Riace, on a pris la décision de faire un film qui raconte cette histoire-là.
D'accord. Et également de nous parler de l'humanité qui a pu se dégager la première fois qu'elles ont pu aller à Riace et comment voilà, elles ont senti que les choses de plus en plus avaient changé. Voilà, elle nous explique son ressenti.
Bon, alors l'humanité de Riace, oui, elle nous est apparue assez vite, mais pas tout de suite non plus. Hein. Mmh. On est arrivé dans ce village, il y avait quelques vieux qui jouaient aux cartes, qui nous ont regardé traverser la rue principale sans la moindre expression. Quoi. Il y avait un petit côté western comme ça, où on n'avait pas, on peut pas dire qu'on était accueillis par des grands sourires. Donc c'est quand même assez austère la Calabre. C'est surtout ces villages de l'intérieur comme ça. On leur a demandé est-ce qu'il y a un hôtel à Riace et ils ont été stupéfaits. Ben non, il n'y a pas. Mais ils nous ont dit allez voir au musée des arts et traditions, on va peut-être vous loger là-bas, peut-être. Donc on y est allé et là on a été accueillis par la personne qui s'occupait du musée des arts et traditions. Donc qui montrait comment on fait le tissage en Calabre depuis les périodes ancestrales. Sauf que cette personne était un Soudanais, il s'appelait Ousmane. Et il était installé à Riace depuis 10 ans. Et tout de suite, avec Ousmane qui avait une connaissance approfondie de la tradition calabraise et qui parlait presque plus calabré qu'italien, on a vite compris qu'il se passait quelque chose entre les gens qui était très fort. Bon, lui nous a raconté son histoire, présenté les gens, et puis les habitants de Riace ont commencé peu à peu à nous parler. Ce sont en fait des gens très pudiques, très une certaine timidité aussi, et donc on a mis un certain temps à nouer des liens. Mais par contre, vous voyez, des anecdotes, par exemple, on voyait des petits jeunes égyptiens qui priaient sur la place. Qui étaient des petits musulmans, et à côté des vieilles dames qui égrenaient leur chapelet. À l'époque, on parlait des prières de rue en France, et où ça faisait, on poussait des cris d'orfraie partout. Et là, on demandait à ces dames, et ils vous dérangent pas, là, ces jeunes en train de prier. Et elles nous répondaient, au contraire, ça nous encourage, et elles priaient de plus belle. Et en fait, par exemple, cette tolérance absolue, spontanée, réelle, entre les gens, les religions, les façons d'être et tout ça, ça, c'est quelque chose qu'on a vu immédiatement et qui nous a paru formidable. Pour la question plus complexe de comment ça a basculé, alors il y a eu plusieurs éléments. Il y a eu le fait que l'expérience de Riach, elle a commencé à être connue. Même avant que nous, on ait terminé notre film, il y avait le magazine Fortune américain qui avait élu Domenico Lucano comme un des maires les plus prestigieux du monde. Il avait eu le prix de la paix à Dresde, tout ça. Donc, on commençait à le connaître. Et ça, dans ces petits endroits, milieux très ruraux, ça crée quand même des jalousies. Quand il voyait qu'il avait ses récompenses ou ses célébrations, il disait « j'ai peur que ça soit le début des ennuis ». Donc il y avait ce petit truc-là. On n'a jamais entendu le vent mauvais du racisme et de l'exclusion à Riach, jamais. Et je veux vraiment le dire, parce que ce qui s'est passé par la suite avec la mairie qui a été ravie par la Lega, c'est-à-dire le parti d'extrême droite italien, ça me semble important, en tout cas tel que nous l'avons ressenti, de dire que c'est une fabrication absolue. C'est-à-dire que le maire porté par la Lega, qui a pris le pouvoir, était un opposant historique à Mimmo Lucano, n'avait jamais eu d'étiquette particulière, était plutôt réactionnaire, mais certainement pas d'extrême droite. D'ailleurs, il connaissait très peu, c'était vraiment très peu un politique. Et les opposants qu'il y avait à Mimmo Lucano étaient comme lui, c'est-à-dire c'était des oppositions de village. Pourquoi est-ce qu'on privilégie tel endroit, pas tel autre, etc. On n'a jamais entendu, et d'ailleurs certains de ses opposants étaient même dans des associations d'accueil. Donc il me semble essentiel pour défendre l'honneur des habitants de Riach de dire qu'à aucun moment ce discours anti-étranger n'a existé là-bas. Il a commencé à rentrer par l'extérieur et par deux personnes, notamment envoyées par ce parti d'extrême droite, la Lega, à Riach pour aider le maire à faire campagne. Deux personnes qui sont arrivées de Milan, qui se sont retrouvées toutes les deux adjointes au maire, avant d'être en prison d'ailleurs pour concussion mafieuse. Mais donc c'était quelque chose qui était vraiment fabriqué. Et pour ce petit bonhomme qui se présentait contre Domenico Lucano, avoir un ministre qui vient vous dire « je t'apporte mon aide » et qui vient vous féliciter devant tout le monde, il n'aurait jamais espéré quelque chose comme ça. C'est ce qu'a fait Matteo Salvini. Donc, voilà, la bascule, il y a eu des querelles de village normales, des inimités, des jalousies, des rancœurs qui existent, comme dans tous les villages et depuis longtemps, partout, on les connaît partout, et qui donc ont été exploitées, très exploitées évidemment, pour défaire Domenico Lucano. Mais il faut savoir que la première plainte menée par le parquet contre Domenico Lucano, ça a été sur une lettre anonyme quand même. Donc voilà ce que je pourrais dire sur la bascule du village.
Donc après une palaisée des Calabria, il y a donc eu une palaisée des Resistenza, mais il n'était pas du tout prévu que Chu Aiello et Catherine Catella y retournent à Riach. C'est bien évidemment en fait certains événements qui ont eu lieu qui les ont fait retourner là-bas. Donc en fait, l'arrestation du maire du village, Domenico Lucano. Et elle nous explique en fait comment finalement elles ont été menées à décider de faire un nouveau film sur le sujet.
Oui, et alors à ce moment-là, on était en train de faire un film en Grèce qui s'appelait Léoforio, qui est un film qu'on était en train de finir de tourner. On a reçu ce SMS qui nous dit « Mimmo Lucano a été arrêté pour encouragement à l'immigration clandestine ». Et je vous assure qu'on a été stupéfaits parce que ça faisait 20 ans que Riach était un village d'accueil. Donc qu'est-ce qu'il y avait de nouveau? On n'a pas compris ce qui se passait. Donc dans un premier temps, on est parti tout de suite à Riach, mais disons dans un élan de solidarité spontanée, pour dire à Mimmo, on vient te soutenir, on est là et tout ça. On avait amené, on est quand même des cinéastes, hein, donc on avait amené un ami qui est venu gracieusement avec nous et avec une caméra. pour dire, bon, on va voir comment ça se passe là-bas. On n'avait pas compris, nous, ce qui se passait. Oui. Et donc, on est arrivé dans ce village qu'on connaissait tellement bien. Hein. Il y avait des milliers de gens qui manifestaient dans les rues, qui étaient venus de toute l'Italie. Donc, on s'est joint à cette manifestation.
C'est les premières images du film.
Voilà, c'est les premières images. C'est notre ami qui les a filmées. D'accord. Et donc, Mimmo était assigné à résidence. Il était chez lui, il n'avait pas le droit de parler. Donc, on ne pouvait pas lui demander des explications sur ce qui s'était passé. Donc, on a marché avec toute cette manifestation. On a essayé de comprendre. Et puis, on est resté. On a dit, on va rester quelques jours, le temps que tout le monde s'en aille. Et là, quand tout le monde est parti, on a vu le drame. Et on a commencé à prendre la mesure de la destruction absolument machiavélique qui était en cours. On a commencé à comprendre ça. Et on s'est dit, il y a la presse qui était à 80%, qui était abominable, qui faisait une campagne absolument horrible contre Domenico Lucano, et la presse sympathisante ne donnait finalement que des bribes d'informations. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on va comprendre cette histoire et qu'est-ce qu'on est en train de nous préparer? Et nous autres, qui sommes des Européennes convaincues, qui sommes en train de voir les murs qui se construisent en Europe, est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui symboliquement va être un point d'alerte pour nous tous? Et c'est comme ça qu'on a décidé de faire le film, de témoigner de cette histoire en disant, quoi qu'il se passe, on ira jusqu'au procès. Bon, ce qu'on savait pas, c'est que ça prendrait 4 ans. Hein. Donc, on a fait des allers-retours, on s'est débrouillé, on a trouvé une productrice assez courageuse pour se lancer dans l'aventure, parce qu'il faut quand même des moyens, obtenir des financements, enfin tout ça. Et on a commencé à faire des allers-retours à Riace et à tourner là-bas. Voilà comment ça s'est passé. Avec vraiment cette idée qu'on pensait ne jamais y revenir, sauf pour le plaisir. Hein. On ne pensait pas revenir à Riace. Et ce deuxième film a été beaucoup plus dur à faire que le premier, parce qu'il était douloureux, parce qu'on voyait des gens qu'on avait aimés et qui étaient blessés complètement, qui étaient en état de sidération. Il y avait 17 inculpés hein, parmi moi. Donc 17 inculpés dans un village de moins de 2000 habitants, c'est 17 familles. Donc ça a été, ça n'a pas été un chemin de rose. Tout vous dire.
Oui, c'est en fait, alors, ma question suivante a été là-dessus, en fait, sur la différence qu'il y avait eu comme ambiance, en fait, quand vous êtes retourné, quoi.
C'était terrible. C'était terrible. Imaginez-vous pour les gens qui habitent dans ce village, qui sont un village rural, avec des gens extrêmement simples. Ce n'est pas un village de militants, ça aussi, il faut bien se le dire. Des gens qui ont accueilli spontanément, qui ont fait leur vie avec les gens qui étaient là, qui étaient très contents de tout ça. Mais là, ils ont commencé à douter. L'État qui vous attaque, c'est que vous avez fait quelque chose. Vous ne pouvez pas, un État n'attaque pas gratuitement un tout petit village comme ça. Donc ils ont tous commencé à douter d'eux-mêmes, à douter les uns des autres. Et c'est comme ça qu'une espèce de poison s'est infiltré dans le village, et où les gens ont commencé à se soupçonner. On parlait de détournement de fonds colossaux. Il a fallu des années pour prouver qu'il n'y a pas eu un centime de détourné. C'est-à-dire qu'il a fallu prouver à l'envers de tout ce qu'avait dit une soi-disant enquête très rapidement faite et sur laquelle il n'y avait aucun élément. Mais pour les gens du village, ça a été des années de calvaire. On en a connu certains qui faisaient partie de l'association municipale qui ne sont pas sortis de chez eux pendant 4 ans, tellement ils avaient honte d'aller dans les rues, peur de tomber sur un journaliste, Donc non, ça n'a pas été un chemin de rose. Et après, même nous, on était aussi tristes que les autres. Donc on se disait, mais on va faire un film désespérant. Et c'est là qu'on a vu, surtout après la sentence, bon, le film aura été vu, donc je peux le dire, mais surtout après la sentence et ces 13 ans qui sont tombés sur les épaules de Mimmo Lucano, on a commencé à voir la résistance se mettre en route. On l'avait vu un peu avant, avec des gens qui venaient de façon complètement émouvante de toute l'Italie, de Naples, de Venise et tout ça. À chaque fois qu'il y avait une audience, à chaque fois qu'il y avait un événement, ils étaient là. Ils soutenaient, ils entouraient Mimmo. Ils ne voulaient pas le laisser seul. Ils ne l'ont jamais laissé seul. Donc ça, déjà, il y a eu cette espèce de noyau dur qui inspirait le respect, parce que vraiment, il n'a jamais lâché, jamais. Et puis, on a vu les jeunes du village qui eux avaient toujours vécu avec d'autres venus d'ailleurs, qui ne comprenaient pas ce qu'on leur reprochait, et qui, comme des gens plus jeunes, c'est-à-dire qui ont moins d'enjeux et tout ça, eux, finalement, ils n'ont pas voulu croire à tout ça. Et ils ont dit, nous, quoi qu'il se passe, on va essayer de faire redémarrer ce village, on les voit dans le film, refaire les cours, etc. Et donc ça, ces deux choses-là, ça nous a quand même bien boosté, parce qu'on a vu qu'on pouvait aussi, quand on était un petit village de moins de 2000 habitants, résister à un État comme l'Italie, et résister à la force de frappe d'un Matteo Salvini. Et ça, ben, ma foi, on est ressorti avec pas mal d'espoir, finalement, de cette expérience, avec l'envie de la partager aussi, de dire que là où les gens ne baissent pas la tête, il se passera toujours quelque chose.
Commencer à basculer. Alors rapidement, Chou Aiello aussi, j'en dis pas plus que vous allez l'écouter le dire, Chou Aiello nous parle en fait de comment Riace a évolué après qu'elles aient pu faire leurs documentaires. Vous allez voir finalement, les choses ne sont pas aussi pessimistes qu'on aurait pu sembler le croire au départ.
À Riace, quelle est la meilleure des preuves ? C'est que Mimmo a été absous en appel. Donc, ça veut dire, c'est ça, c'est une autre forme de la résistance, qu'il y a une partie de la justice qui est indépendante et qui ne se laisse pas faire. Il y a quand même le conseil de la magistrature qui s'est beaucoup battu. Il y a eu beaucoup de soutien. Hein. Il y a eu beaucoup de soutien de gens qui n'acceptaient pas le verdict, qui n'acceptaient pas tout ça. Et donc ça a été la première des choses, la première des poches de résistance. La deuxième, c'est que quand il a été absous de à peu près tout ce qui lui était reproché, il est resté deux délits dont je pourrais parler. Hein. Il veut aller en cassation pour ça aussi, mais bref. Mais en tout cas, il ne restait plus rien et ils ont redonné son éligibilité. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est représenté à la mairie de Riace et il a été réélu. Preuve que cette résistance avait parlé et qu'après toutes ces années où les gens ont été montrés du doigt vraiment, certaines personnes qui travaillaient avec lui, qui ne voulaient même pas nous parler dans le film, hein, on les connaissait très bien, des petites dames qui aidaient à l'association, se sont retrouvées avec des 10 ans de prison en première instance. Donc si vous voulez, la déflagration a été quand même énorme. Et on a vu tous ces gens redémarrer et le réélire comme maire, mieux que ce qu'il avait jamais été élu. Et en plus de ça, il a été élu député européen. Donc il va porter cette parole-là en Europe à un moment où l'Europe en a bien besoin. Donc, c'est un satisfecit quand même aussi. Hein, parce que l'accueil a recommencé à Riace. Alors certes, plus avec les moyens, parce qu'il y a eu le procès... l'argent qui était alloué au village a été bloqué. Voilà, donc ça continue avec beaucoup de difficultés, avec des dons venus d'Allemagne, de France, d'Italie, de partout. Il y a une solidarité internationale aussi autour de Riace. Donc oui, ça a vraiment, la résistance a payé. Elle a vraiment payé.
Et Salvini a été condamné.
Il a été condamné parce qu'il bloque les bateaux, qu'il n'a pas le droit de faire. Hein, c'est le droit de la mer, quand même. Hein. Il s'assoit dessus. Hein. Il est condamné, il recommencera. Hein. Il recommencera, il n'est plus ministre de l'Intérieur, il est ministre des Transports. Mais bon, il a déclaré qu'il continuerait à faire... tant que...
Oui, parce que Mirace, vous l'avez vu, hein, il est devenu un peu le symbole de l'extrême droite, Matteo Salvini, il est devenu un symbole justement.
C'est le symbole. C'est pour ça qu'ils ont voulu le démolir. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de villages qui ont reproduit le modèle de Riace, et il y avait l'Espar, bon ça serait compliqué à expliquer maintenant, mais qui ont été testés en Italie dans plein d'endroits. Plein de petites communes rurales qui présentaient un projet à la fois d'accueil et de redynamisation du village et qui avaient des subsides pour ça dont une grande partie venait de l'Europe. Donc ça essaimait beaucoup, c'est bien ça qui leur plaît pas. Et Salvini, il a Mimmo Lucano dans le viseur depuis 2010, c'est pas de maintenant. Il a fait des déclarations partout, on le sait qu'il avait... Il avait décidé d'avoir sa peau, on le sait. Donc c'est quand même c'est un échec pour lui. Malgré ses 4 ans de persécution, le village n'est pas détruit, Mimmo n'est pas détruit. En plus, il est député, on n'a jamais autant parlé de lui. C'était très contre-productif, finalement.
Alors, je pense que vous l'avez compris, hein, notamment si vous avez vu le film ou si vous avez écouté les propos précédemment de la réalisatrice, cela a beaucoup affecté hein, finalement quand même le village. Donc l'état de Domenico Lucano a été très affaibli, elle nous le dit tout de suite.
Moi je dis que s'il n'y avait pas eu ces gens-là, vous savez, ces gens-là c'était la CGIL, c'est-à-dire l'équivalent de la CGT en Italie, qui était très présente, des associations catholiques,
oui,
papistes,
on voit que l'évêque aussi,
l'évêque Brégantini qui était là au départ, mais aussi celui dont on ne voit pas que c'est un évêque, qui a toujours une chemise africaine, un vieux monsieur avec une barbe blanche, qui est le père Zanotelli, ça c'est des gens de Naples, c'est association catholique de Naples, ces gens-là ont toujours été là. Et je pense que Mimmo a été à deux doigts d'une très grave dépression.
Ah, c'est ce qu'on ressent par moment.
Absolument, dans les images. Absolument. Il a vraiment failli perdre pied. Et on peut les remercier. Et là aussi, on peut se dire, tant qu'il y a des gens, quand il a été exilé à Cologne, les gens venaient le voir à Cologne pendant un an qu'a duré cet exil. Caolonia, pas Cologne, Caolonia, c'est un petit village à 30 km de Riace, puisqu'il a été exilé du village, ce qui n'existait plus depuis Mussolini, hein, quand même, de faire ce genre d'exil.
Hallucinant.
C'est hallucinant. Soi-disant pour l'enquête. C'était du jamais vu. Hein. Mais les gens sont venus. Ils sont venus à Caolonia, ils sont venus. Il y a une amie qu'on voit souvent à Riace et qui a réuni d'autres gens. Ils ont écrit l'histoire du procès jour après jour. Ils ont vraiment été. C'est une poignée de gens. On les compte pas sur les doigts d'une main. Hein. C'est 150 personnes, 200 personnes. Mais je ne parle pas après, il y a eu beaucoup d'autres aides, mais en tout cas, ceux qui ont été les fidèles des fidèles ont sauvé à la fois le village, de mon point de vue, et la santé mentale de Mimmo, je pense vraiment. Alors, en Italie, on a une productrice italienne qui nous a aidés, et qui nous a surtout aidés avec une équipe italienne calabraise qui était sur place, parce qu'on ne pouvait pas être là tout le temps. Et puis surtout, on ne savait jamais rien. On ne savait jamais quand aurait lieu l'audience, machin. Elle était reportée. Et pour nous, c'est un voyage. C'est deux jours de voyage pour venir à Riace. Donc on ne pouvait pas réagir forcément aux audiences. Et donc on avait cette équipe qui était à Reggio, donc pas loin de Riace, et qui nous a permis de filmer. Donc cette coproductrice italienne a trouvé un distributeur militant, parce que là, il faut être militant en Italie pour un film comme ça. Et bon, ils ont trouvé pas mal de salles, parce qu'il y a des villes qui ont aussi donné une médaille d'honneur à Mimmo aussi, hein, pour le soutenir pendant le procès, comme Bologne, des villes comme ça. Donc il y a des villes qui ont pris dans leur salle de cinéma, qui prennent le film. Et puis là, encore une fois, on a des associations catholiques qui s'en sont emparées et qui vont le faire circuler dans les diocèses. Parce que Brégantini, l'évêque qui est dans le film, c'est quand même un proche du pape. Et donc il y a quand même une partie de l'Église, hein, il y a une partie qui est très réactionnaire, mais il y a une partie de l'Église qui est favorable. Le pape lui-même a accueilli 200 migrants au Vatican. Hein. Donc il y a ça qui va faire qu'il va y avoir le circuit catholique et pas des moindres en Italie. L'Italie, c'est pas un pays laïque, hein, c'est un pays très catholique. Et puis, il y a le syndicat, bien sûr, la CGIL, qui va continuer parce que pour eux aussi, c'est une victoire d'avoir été présent. Donc, ils montreront ce film avec plaisir. Quoi. Voilà. Après, Riace, c'est une autre question pour répondre à la dernière des questions. Pour l'instant, on ne veut pas encore le montrer à Riace. On l'a montré à Mimmo, parce qu'on voulait être sûr qu'on ne raconte pas de bêtises, surtout sur le procès. Donc, Mimmo et son avocat l'ont vu. Mais aux habitants de Riace, on n'a pas voulu le montrer parce que le problème, c'est que comme ils ont douté, il y en a pas mal qui ont changé de bord, puis après qui sont revenus. On n'a pas envie de les désigner aujourd'hui, non, parce qu'on est dans une période de réconciliation où les gens se remettent à faire quelque chose. On n'a pas envie de venir leur dire, t'as vu, toi, on t'a vu à côté du maire de la Lega, tout ça, alors que t'es revenu à Mimmo. Donc voilà, on trouve que c'est pas. On attend que ça soit eux qui nous disent venez nous montrer le film, et pour l'instant ils se pressent pas parce qu'ils savent tous ce que je viens de dire.
Vous disiez tout à l'heure que vous savez, pour le premier, vous dites vous allez pas, vous pensez pas refilmer Riace. Est-ce que cette fois vous dites c'est la dernière fois?
Ah oui, non, là c'est la dernière fois parce que je crois qu'on a dit ce qu'on avait à dire, que ce village maintenant il va redémarrer. Il y en a d'autres. Il n'est pas le seul, il y a d'autres gens dont il faut parler aussi. Donc non, là, je ne vois vraiment pas à moins d'un...
C'est sans fin. Vous allez voir le rebondissement.
La saison 3, la saison 4. Mais non, nous, c'est vraiment, si on est revenu, c'est cette arrestation arbitraire qui a fait que là, on a dit, on ne peut pas avoir raconté une jolie fable, une utopie réaliste, comme on disait, et ne pas raconter comment on l'a démolie. Ça, on ne pouvait pas le faire. Maintenant, c'est fini. Qui se débrouille, hein.
Donc enfin, pour conclure cette interview, Chou Aiello nous raconte un peu ses projets à l'avenir, ce qu'elle est en train de préparer.
C'est un peu ce qu'il en est ou pas ?
On est vraiment au tout début. On est en train de réfléchir à la façon dont on va le faire. Ce qui est sûr, c'est que ça va être encore un film sur l'accueil. Mmh. Parce que c'est parmi toutes les choses dont on a envie de parler en ce moment, on a surtout envie de parler des gens qui accueillent. Parce que les exilés qui arrivent en Europe, on connaît leur destin. Il y a beaucoup de films qui se font dessus, et tant mieux. Mmh. On connaît leurs histoires, mais par contre, ce qu'on connaît moins, c'est l'histoire des gens qui accueillent, je trouve. Et c'est vrai qu'en se baladant avec ce film, comme avec le précédent, c'est vrai qu'en allant en Calabre, on est épaté par les initiatives que les gens prennent partout. Contrairement au discours dominant qui nous raconte des histoires d'invasion et tout ça, nous on voit des gens dans les villes, dans les villages et tout ça, qui sont présents, qui sont solidaires. Et donc, ça va être notre prochain propos.
Super, merci.
Voilà, c'était l'interview de Chou Aiello pour le film Un Paese de Resistenza. Alors, comme je vous l'ai dit, le film a été présenté en avant-première le 29 novembre, mais il revient au cinéma Les Lobbies pour le début d'année à partir du 1er janvier pour 4 séances sur une semaine. Donc voilà, ce sont les dernières séances de rattrapage. Donc si vous n'aviez pas vu le film, n'hésitez pas à aller le voir. C'est un très beau film documentaire sur une réalité dont je ne connaissais pas cette île de Riace. Et finalement, c'est quand même deux documentaires, que je vous conseille également de voir Un Paese de Calabria, qui n'est pas proposé aux Lobbies, mais qui est un documentaire que je vous encourage également à voir. Ce sont deux films qui montrent finalement à la fois l'état actuel de notre société, mais aussi comment en fait les choses ne sont pas si fatalistes que ça. Il y a finalement de l'espoir au bout du tunnel, comme on dit. Donc c'est sur ce dernier mot que je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve l'année prochaine, 2025, pour de nouvelles émissions d'Au fil des bobines. Je vous souhaite à tous une très belle journée et de très bons films et de très belles fêtes. Au revoir.